Religion du monde.
La voix du silence. Ainsi s'intitule le dernier livre de Mgr Michel Laroche, théologien orthodoxe. De nombreux occidentaux cherchent dans les sagesses orientales une pratique du silence qui leur permettra de se recentrer sur la vie de l'esprit. Beaucoup ignorent cependant que le christianisme, lui aussi, propose une telle discipline. L'auteur nous invite à découvrir cette voie du silence et les moyens de la suivre aujourd'hui. Écoutez Michel Laroche sur son dernier ouvrage qui vient de paraître chez Albin Michel.
Eh bien, d'une part, ce livre est destiné à toute personne qui cherche ce silence dans une vie où nous sommes tellement sollicités par à la fois le son et l'image. Et beaucoup de gens cherchent dans des traditions non chrétiennes ce silence, alors que les pères du désert ont vécu ce silence et l'ont transmis dans les différents monastères orientaux qui existent encore, où il y a une tradition ascétique du silence très présente, et c'est ce petit livre qui essaie de rendre témoignage à ses pères et à cette expérience qui est accessible à tous. Alors l'Orient, c'est un peu un terme symbolique parce que le mont Athos, c'est le terme qui était employé pour parler de l'Empire d'Orient dans lequel il y avait cette tradition monastique particulière et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, nous avons une permanence à la fois de textes et de liturgies qui se sont fixés au IVe siècle et qui n'ont jamais changé et qui permettent cette transmission de cette parole de silence.
Alors, puisque le silence existe aussi bien en Orient qu'en Occident, est-ce qu'on peut dire que le silence et la méditation sont la racine même de toute la théologie mystique ?
Alors, d'abord, je ne suis pas certain que la méditation soit exactement la même chose que la prière. Parce que le silence dont nous parlons, il est en rapport avec le caractère incognoscible de la divinité. C'est-à-dire que aucune intelligence humaine ne peut saisir la divinité. Et donc la première ascèse qui est proposée à celui qui se dirige vers le silence, c'est l'arrêt de ses propres pensées sur Dieu. Même les pensées les plus positives sur Dieu sont un non-silence par rapport à Dieu. Et au fond, c'est cette idée centrale, c'est que Dieu ne peut se rencontrer que dans le silence. Mais lorsque se fait cette rencontre, il y a une telle paix, une telle sérénité que l'âme n'a plus besoin de paroles. Elle est remplie de ce silence et elle se sent vivante, imprégnée de paix. Elle échappe au monde. En fait, c'est une sortie du monde.
C'est pour cela que vous écrivez aussi que le silence sur soi suppose un combat contre ses pensées.
Tout à fait. C'est le silence divin qui vient dans l'âme et qui la rend apte à rencontrer dans une union mystique le Christ, l'époux de l'âme. Et là, nous rencontrons des grands textes comme ceux de Grégoire de Nice, mais très étrangement, nous retrouvons les racines d'une telle expérience chez des philosophes païens comme Plotin, qui parle tout à fait d'une expérience comparable à celle dont parle un saint Grégoire de Nice dans son traité sur le Cantique des Cantiques.
Est-ce que le monachisme est l'unique voie pour vivre l'expérience de ce silence, d'après vous ?
Alors c'est une très très bonne question. Non, moi je pense que le monachisme est une des conditions qui permet de rentrer le silence. Mais comme ça se passe d'ailleurs très curieusement dans le bouddhisme, vous avez des gens qui ne sont pas nécessairement des moines et qui vont faire un séjour dans des monastères. Particulièrement, cette pratique existe au Japon où elle est très présente. Vous n'êtes pas obligé d'être moine. Vous devenez moine pour un certain nombre de mois ou d'années, mais vous n'êtes pas un moine définitif. Eh bien, sans recourir à une entrée dans le monachisme, puisque si on est moine, c'est pour la vie, dans les églises chrétiennes, des croyants vont faire des séjours dans des monastères et trouvent des pères spirituels qui les initient à ce silence. C'est plus fréquent de le trouver dans un monastère que dans une paroisse. Il est clair qu'il faut quand même se retrouver près de maîtres de ce silence, c'est-à-dire des gens qui ont consacré leur vie. Mais oui, je pense, et je l'enseigne en tout cas, que toute personne qui veut rencontrer ce silence trouvera ce silence.
Et comment suivre la voie du silence aujourd'hui dans une société où le bruit est permanent ?
Bien, je pense d'abord que c'est tout d'un coup avoir ce désir. Alors c'est vrai, il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre sans leur poste de radio allumé, sans leur télévision allumée. Mais je pense que ce bruit permanent cache la peur d'une rencontre avec soi-même. Je ne dis même pas d'une rencontre avec Dieu, je dis de rencontre avec soi-même. Mais toute personne qui, à un moment donné, est en quête d'elle-même Et voyez, mon propos est humaniste, il n'est même pas chrétien. Eh bien, elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas atteindre cette rencontre avec elle-même sans recouvrer ce silence perdu. Donc le silence, pour moi, c'est une condition de se retrouver soi-même. Mais pour le chrétien, cette rencontre se fait dans la recherche même de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui, dans ce silence, nous remontre un autre nous-mêmes que nous ne connaissions pas ou que nous avions refusé de rencontrer.
Vous écrivez aussi dans votre livre que la voie du silence n'est pas en elle-même semblable pour chaque individu.
Alors, les étapes qui y conduisent le sont, parce que elles sont connues, elles sont balisées par les pères. Je les résume comme ça de mémoire. La première étape, c'est tout simplement la prise de conscience du bavardage incessant de notre propre âme, de ce non-silence permanent qui est installé en nous. Il n'est pas seulement à l'extérieur, il est bien entendu à l'intérieur. Ensuite, essayer de ne plus se conceptualiser, pas plus que nous devons conceptualiser Dieu, qui de façon échappe à notre intelligence, nous devons nous conceptualiser nous-mêmes pour laisser notre véritable être apparaître dans ce silence recouvré. Et la troisième étape, c'est cette rencontre avec le silence divin dans lequel Dieu se manifeste.
Dans votre livre également, vous consacrez un chapitre entier au chemin angoissé du royaume, ce que vous appelez le chemin angoissé du royaume. Est-ce que le silence est ce chemin angoissé ou bien en fait il partit ?
L'angoisse, je dirais, c'est l'angoisse de toute naissance. Une femme qui est dans son travail pour donner naissance à un nouvel enfant, c'est l'exemple que donne le Christ lui-même, connaît l'angoisse et la douleur. Et une fois que l'enfant est né, elle oublie là son angoisse et la douleur qui a précédé cet accouchement. L'accouchement de nous-mêmes se passe dans cette même angoisse. Oui, c'est le chemin qui conduit à la révélation de la personne qui s'opère dans le silence.
Vous citez également beaucoup Saint Isaac le Syrien, pour qui le silence, et là c'est très original pour moi, le silence ne va pas sans les larmes. Je vous cite la phrase exactement, la théologie des larmes est indissociable du silence intérieur.
Alors là nous rentrons dans quelque chose qui est typique de l'Église orthodoxe. Il y a très peu de pères occidentaux qui ont parlé du baptême des larmes. La théologie des larmes parle du baptême des larmes comme de la continuation et du renouvellement du baptême que chaque chrétien a reçu au commencement de sa vie. Et pour nous, les larmes, la prière des larmes, c'est un charisme. Ce ne sont pas des larmes qui viennent par l'émotion, par la douleur, par la joie. Non, c'est des larmes qui viennent par le Saint-Esprit. Et c'est un des signes que l'âme rencontre l'Esprit-Saint. Et cette rencontre se manifeste par des larmes qui mettent l'âme dans un état de paix ineffable. Mais c'est vrai que notre théologie et tous ces textes qui les accompagnent viennent du désert. C'est l'université du désert, ces moines, qui ont transmis ces textes à l'ensemble de l'Église. Donc il y a une espèce d'émergence du désert dans la vie paroissiale orthodoxe et qui n'est pas présente dans la vie paroissiale occidentale. Mmh. Un père disait, dans le désert, vous avez le bruit et le silence. Parce que ne pensez pas qu'en allant au désert, vous allez rencontrer d'emblée le silence. Non, moi j'ai fait plusieurs séjours, non dans le désert, mais dans des monastères. Et bien la première chose qu'on rencontre dans un monastère où il y a un silence autour de vous, c'est que vous transportez dans votre âme tout le bruit du monde et vous allez devoir avoir un combat contre vos pensées, contre les pensées du monde, avant de recouvrer ce silence qui immerge l'ensemble de ces moines qui vivent dans ce monastère.
Donc concrètement, le silence, il est d'abord intérieur.
Il se trouve à l'intérieur, mais il vient de Dieu. Il est une forme du mystère dans le cours de Dieu. Dieu est au-delà de toute définition, de tout concept. Le Créateur ne peut pas être compris par sa créature. Le Créateur est plus vaste que toute sa création. La création ne peut pas concevoir le Créateur. Eh bien, c'est ce silence, cette inconnaissance, qui tout d'un coup remplit l'homme, non seulement de lui-même, mais même l'homme ne se définit plus. Il devient un homme de révélation dans lequel il est écrit dans l'Apocalypse « Et au vainqueur, je remettrai un nom nouveau connu de lui seul ». Ben, ce nom nouveau, c'est ce nom du silence.
C'était Mgr Michel Laroche, théologien orthodoxe.